Chapitre 37. À la nuit tombée, Nietzsche et ses compagnons prirent place autour d'un brasero devant la maison de Marcus et Luna. Spacieuse et fraîche, la demeure offrait une grande pièce aux poutres apparentes et aux généreuses fenêtres et plusieurs chambres attenantes, une résidence qui témoignait de temps bien plus faste. Pendant la préparation du dîner, Nathan et Bannon entreprirent de raconter leur voyage à Marcus et Luna. Quand ils eurent fini, Nietzsche parla longuement du nouvel âge d'or du seigneur Hall, sans convaincre leurs interlocuteurs.
« Nous avons à peine assez d'eau pour survivre, » dit Marcus. « Bientôt nous serons à court de nourriture et toutes les autres villes proches, je vous le répète, sont à l'abandon. »
L'oncle de Chardon croisa les mains, se pencha en avant et regarda Nietzsche.
« Je suis content d'apprendre que ton seigneur Hall a renversé des tyrans, mais viendra-t-il à notre secours? La balafre grandit chaque jour. »«
Nous sommes là, non ?» répondit Nietzsche. « Mais nous devons en savoir plus sur le buveur de vie. »«
Je doute de pouvoir être très utile, » dit Nathan sinistre, « avant d'être allé à Colader, en tout cas. »
Assise à côté de Nietzsche, Chardon leva les yeux du lézard qu'elle était en train de vider.
« Colader ? » répéta-t-elle. « C'est loin d'ici. »
Après avoir écorché le reptile avec un petit couteau, la gamine le piqua sur une brochette qu'elle tendit à Bannon, préposée au brasero.
Avec une moue écœurée, le jeune homme mit la bestiole à rôtir. Tout l'art, pour que la chair ne brûle pas, était de tourner la brochette régulièrement.
« À quelle vitesse grandit la balafre ?»«
En 20 ans, » répondit Luna. « La vallée a disparu et l'expansion continue. Très loin d'ici, il reste peut-être un ou deux autres villages. »
« La balafre grandit de plus en plus vite parce que le buveur de vie gagne en puissance, » dit Marcus. « Ce sorcier est insatiable. Juste après notre mariage, le cœur de la vallée a été touché. Mais nous n'avons pas fui, et depuis nous tenons le coup. »
Dans la nuit silencieuse, le vent charriait des relents de fumée mêlés à une puanteur chimique. Devant chaque maison encore habitée, les villageois se préparaient à dîner, chacun chez soi malgré la désolation. Aux sources de Verdun, on ne communiquait plus beaucoup, sans doute parce que le seul nom du buveur de vie coupait aux gens l'envie de parler.
« Ici, » dit Luna mélancolique, « nous étions plus de 1000. Aujourd'hui, il reste une dizaine de familles. »«
Les plus fortes !» lança Marcus.
Un désaccord qui ne datait pas d'hier, devina Nietzsche.
« De l'autre côté de la montagne, » dit Manon, « il y a de belles forêts et des terres cultivables. » Vous y seriez heureux ?
Ce serait reculer pour mieux sauter,
fit Marcus entêté.
La balafre grandit, un jour ou l'autre, le buveur de vie aura dévasté le monde.
Sauf si quelqu'un l'arrête,
intervint Nietzsche d'un ton soudain très dur.
Moi, dit Chardon, je veux rester jusqu'à ce que la vallée redevienne fertile, comme avant la mort de mes parents. Je m'en souviens très peu.
Tu étais trop jeune, rappela Marcus.
La fillette finit de préparer le plus petit lézard qu'elle se réservait. Léchant le sang sur ses doigts, elle laissa sur sa bouche une grande traînée rouge. Nietzsche se pencha pour l'essuyer.
« Tes joues sont couvertes de crasse, » dit-elle.
« Nous n'avons pas la possibilité de nous laver souvent, »
souffla Marcus. Chardon se cracha sur le bout des doigts et tenta en vain de faire un brin de toilette. Les invités avaient enrichi le menu en offrant des fruits secs et ce qui leur restait de poisson fumé. La perche de Renda sur Bay intéressa d'abord Chardon. Après l'avoir goûtée, elle fit la moue et annonça qu'elle préférait ses lézards.
« Qui est le buveur de vie ?»
demanda Nietzsche, revenant aux choses sérieuses.
« Et comment peut-on le vaincre ? A-t-il des faiblesses ? »
Était-ce pour le combattre qu'elle avait été entraînée jusque-là ? « Et la magicienne devra sauver le monde. »
« Nous ne savons pas tout, » répondit Marcus. Au fond, nous ne sommes que de pauvres villageois affectés par ce fléau. À l'origine, c'était un sorcier de surplomb du monde, et quelque chose a terriblement mal tourné.
L'oncle de Chardon nettoya les os de son lézard rôti, puis il les broya pour en sucer la moelle.
C'est là que vous trouverez le moyen de détruire ce monstre, si c'est faisable. Et surplomb du monde, c'est quoi au juste ?
Demanda Nathan.
Une grande bibliothèque magique, répondit Luna. Nous pensions que c'était une légende. Mais c'est faux,
Parce que j'y suis allée ?
Coupa Chardon.
Tu ne t'aventures pas aussi loin, petite.
La réprimanda Marcus.
Si, c'était à 4 jours de marche sur le haut plateau, mais je l'ai fait.
Cet endroit était caché depuis les grandes guerres, dit Luna. Il est réapparu il y a 50 ans. Nathan arqua un sourcil et se tourna vers Nietzsche.
Une bibliothèque magique? Un endroit que nous devrions explorer dans tous les cas. Qui sait? On y trouvera peut-être de quoi résoudre mon problème sans devoir aller à Colladère. Plus de précieuses informations sur le buveur de vie, bien entendu.
Je vous guiderai, s'écria Chardon. J'ai vu de mes yeux cet endroit.
Allons, petite, ne te vante pas, grogna Marcus.
On dit que quelque chose a détruit le camouflage de surplomb du monde, intervint Luna. L'emplacement est toujours secret, mais les gens très mystérieux qui y montent la garde ont invité quelques érudits des villages survivants.
Le vent souffla plus fort, soulevant des nuages de poussière. Dans le lointain, Nietzsche entendit le cri de chasse d'un oiseau nocturne, puis des ombres s'agitèrent dans les maisons vides. Soudain, la magicienne vit des silhouettes dans une étroite ruelle entre 2 bâtiments. Se relevant, elle tenta de sonder les ténèbres. Dans l'air, elle capta des vibrations magiques, mais pas celles dont elle avait l'habitude. Depuis son arrivée aux sources de Verdun, elle sentait monter de la balafre de très curieuses ondes. Là, l'impression était bien plus forte, comme la sensation de chaleur après qu'on eût ouvert la porte d'un four. Nerveuse, la magicienne jeta au loin ses restes de lézard, puis elle s'éloigna du brasero et s'engagea dans la rue. Avant que Marcus ou Luna aient pu demander ce qui clochait, des cris retentirent.